Nous voici donc arrivés à la fin de la retraite, la fin du début, et c'est le début de notre commencement. Tout est toujours interlié de cette manière, la fin d'une retraite de week-end, et l'esprit, j'imagine, est déjà en train de penser à ce qui va se passer. À ce que vous allez faire dans la semaine prochaine ou bien ce soir. Peut-être vous pensez au repas que vous allez avoir ce soir, après 2 jours sans repas vraiment, le soir. Les bénéfices de la méditation sont relativement rapides à observer. On se rend compte à quel point l'esprit est capable de s'apaiser et de lâcher lorsque nous n'avons pas les situations où nos attachements sont particulièrement tenaces. Mais vous vous rendez compte tout de même que même sans votre situation habituelle, les objets habituels sur lesquels votre esprit se porte facilement, s'absorbe, dans lesquels il s'absorbe facilement, on les retrouve dans notre méditation, on retrouve cet esprit qui colle aux choses. J'aimerais parler un petit peu de l'écoute. J'en ai parlé dans la méditation. On écoute son mental, on écoute le flot de sa respiration naturelle. On écoute. C'est une qualité dont on parle pas mal ces jours-ci, dans le monde de la psychologie, la psychothérapie, le monde de communication, le monde du travail. On parle de ces qualités d'écoute. C'est aussi une qualité qui est liée à ce travail d'attention. L'attention n'est pas une chose verbale. L'attention n'est pas un mouvement de l'esprit qui recrache des mots. L'attention est... Vous savez très bien, quand vous êtes attentif à quelque chose, la qualité qui surgit dans votre esprit, Quand on est attentif, rappelez-vous, on est souvent silencieux. Notre langage vient du silence. Nos paroles peuvent venir du silence, de l'attention. Nos actions viennent du silence, surgissent de notre esprit silencieux. Nos pensées peuvent venir du silence, de l'esprit silencieux, de l'esprit attentif, de l'esprit vigilant, conscient. Et plusieurs parmi vous m'ont fait comprendre que vos situations de vie, les situations que vous, dont vous faites partie, les situations dans lesquelles vous travaillez, vous pousse à cette absence de vigilance, ou en tout cas vous entraîne dans l'expérience à une absence de vigilance, peut-être à se presser et à être stressé. Et cette, la qualité d'écoute de l'esprit disparaît facilement. Remarquez en vous-même combien vous avez des réponses faciles à vos questions quand il s'agit de vous-même. Ce sont presque des réponses automatiques. Observez, donnez-vous une chance d'observer au travers de l'esprit neuf, l'esprit présent, l'esprit ici et maintenant. Essayez que vos réponses viennent de cet état d'éveil. Les gens, quelqu'un me disait, qu'est-ce que l'éveil ? L'éveil, c'est aussi cet état d'écoute, cette capacité d'écouter son esprit, d'écouter, de s'écouter et de vivre dans une réalité qui n'est plus perdue, mélangée par un passé dont vous souffrez encore, par un passé qui vous omnubile, par un passé qui peut devenir obsessif quelquefois. Votre pratique maintenant, vous avez une pratique qui vous permet justement de ne plus fonctionner de cette manière. Donc, utilisez-la dans votre vie quotidienne. Donc, cette qualité d'écoute est vitale, c'est le cœur de la pratique. L'écoute intérieure. Que vous soyez au bureau, à la poste, en voiture, cette écoute intérieure, qui n'est pas une... On ne se concentre pas sur quoi que ce soit, on écoute. C'est-à-dire que si vous êtes en voiture, vous n'êtes pas concentré sur un objet, vous êtes à l'écoute intérieure de la situation qui surgit dans votre esprit. Il y a un feu rouge, vous arrêtez, il y a un feu vert, vous repartez. Vous n'êtes pas tout à coup engloui dans l'idée de l'écoute intérieure. C'est une écoute qui est aussi reliée à un esprit connecté avec la réalité du présent, connecté avec les gens qui vous entourent, connecté avec vous-même tout d'abord. Les gens qui vous entourent à l'intérieur, tout d'abord. Il est important à un moment de cesser de de parler intérieurement et de commencer à écouter. Alors, certaines d'entre vous me disent, je préfère être toute seule, comme ça il n'y a personne qui me parle, et je n'ai aucun problème comme cela. Mais c'est pas ça le chemin de la voie de la libération des poisons de notre esprit. Ce n'est pas ça, la voie de la libération n'est pas une voie érémitique. Ce n'est pas une voie où on se met dans une grotte quelque part et on vit dans un monde, on vit avec les gens, on vit avec des situations qui nous demandent de l'attention, qui nous demandent une vigilance, hein, qui demandent une intelligence du cœur pour répondre. Et moi j'ai vécu toute seule dans la forêt, j'ai vécu toute seule dans de nombreux endroits. Et je dis toujours merci aux êtres qui m'entourent, parce que c'est eux qui me font grandir, d'une certaine manière. On peut grandir toute seule, mais aussi, il y a des temps pour la solitude, mais vraiment les temps où on fait le plus gros travail, c'est quand on est avec les gens. Parce que les gens sont des miroirs de nous-mêmes. Tout ce que vous voyez, c'est vraiment mon expérience, tout ce que je vois au travers des gens ne sont qu'une reconnaissance de l'intérieur de moi-même. Je reconnais le monde, mon monde intérieur. Tout ce que je vois à l'extérieur de moi-même n'est qu'un miroir de ce que je suis à l'intérieur. Mais rappelez-vous, c'est toujours temporaire. Quand nous avons des meetings avec les nonnes, avec ma communauté de nonnes, et qu'on fait un checking, ce qu'on appelle, on se rencontre en rond comme ça et on fait un checking. Et je leur dis toujours, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, parce que nous comprenons tous que demain ça sera différent. Ne vous inquiétez pas. Tout est impermanent. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, mais on a une compréhension que... Nous partons de cette compréhension que demain vous serez une autre personne si ce n'est pas l'heure d'après. Donc on partage l'instant présent qui peut être agréable, désagréable, multiple, mais on sait que le lendemain on est une personne différente. On donne à l'autre l'opportunité de changer. On donne à l'autre la liberté de se transformer. On donne à l'autre la capacité d'être vu tel qu'elle est ou tel qu'il est. La méditation vous amène à reconnaître que votre connaissance intellectuelle, toute votre logique, tout votre rationnel, il est très important d'avoir ça clairement établi en nous-mêmes. Mais le drame actuel, c'est que cette connaissance livresque que l'on a des choses, cette accumulation de connaissances, vous donne l'illusion que vous savez des choses que vous ne savez pas. Hein? Elle vous donne l'illusion. Vous le savez, on le sait. On connaît quelque chose à un niveau intellectuel, mais la véritable connaissance, c'est quand on est ce qu'on connaît. On est cela. Alors, on est cette personne. Quand je vous dis développer la patience, il y a quelqu'un me répondra, oui, mais la patience, je la développe. Une demi-heure, on va parler de la patience. Mais si vraiment vous étiez la patience, vous n'auriez rien à prouver, ni à justifier, ni à faire quoi que ce soit. Votre esprit ne bougerait même pas. C'est ça, Je dirais, c'est ça le signe que quelqu'un est ce qu'il est, c'est quand il cesse de justifier ou de prouver aux autres ce qu'il est. On n'a pas à prouver ni à justifier ce que l'on est, quand on est vraiment ce qu'on essaie de prouver et justifier. Comme toute activité, la pratique du bouddhisme, la pratique de la méditation, demande un entraînement. Ça n'arrive pas tout seul, par la poste, comme ça. Ça n'arrive pas tout seul. Est-ce que vous êtes prêt à entraîner votre esprit? Est-ce que vous êtes prêt à comprendre que le mental, l'esprit, ce que vous êtes, a besoin d'aide? Est-ce que vous êtes prêt à mettre en action les choses nécessaires pour vous aider? Demandez-vous vous-même, à vous-même. Est-ce que vous avez, to be willing en anglais, est-ce que vous avez la volonté, le désir, l'envie de vraiment mettre en action ce qui va profondément vous aider? Il y a deux choses qui sont particulièrement importantes pour vous aider dans ce qui vous intéresse. J'imagine que vous ne venez pas à une retraite de méditation parce que ça vous ennuie complètement. C'est évident que vous êtes intéressé par la pratique, intéressé par la méditation, intéressé par l'enseignement, autrement vous ne viendrez pas passer deux jours ici. Et souvent ce sont des qualités qui ne sont pas toujours évidentes. Parce qu'on sait, nous sommes tous très beaux parleurs, mais mettre en pratique est autre chose. Le premier dont je voudrais parler, c'est le metta, dont on a fait la méditation ce matin. Metta ou compassion. Quand quelqu'un, un membre de notre communauté a demandé à un maître Sri Lankais, qu'elle connaissait déjà pour avoir passé quelque temps dans son monastère à Sri Lanka, et qui est un enseignant assez d'une grande sagesse, elle lui a demandé comment pratiquer metta. Il lui a répondu, c'est un moine, il lui a répondu, tu sais, quand on aime quelqu'un là, par exemple dans le contexte monastique, nous avons dans la règle monastique, les anciens sont assistés d'une personne plus jeune dans la communauté, c'est-à-dire c'est à la fois la grande sœur, c'est une espèce d'entraide entre les deux, prend soin. Quelquefois, quand on est les nonnes plus anciennes, elle peut aider, quand la nonne est très occupée à des tas de choses, elle peut aider à faire le lavage de sa robe, ou bien nettoyer sa coutille, ou bien l'aider un peu dans des choses administratives peut-être, des choses comme ça. Et il disait, quand on aime bien quelqu'un, on a envie de tout faire pour cette personne. On a envie de lui laver sa robe, on a envie de l'aider, on a envie de faire ceci, on a envie de faire cela, on est très content. On sent beaucoup d'amour pour cette personne, on a envie de vraiment l'aider. Et il disait, mais le vrai metta, ça ce n'est pas le metta. De faire des choses agréables à quelqu'un qui nous plaît et qui nous est agréable. Le metta, il dit, c'est quand vous parlez, vous ne dites de quelqu'un que des qualités positives de cette personne. vous vous abstenez complètement de parler de choses négatives, même s'il y a une montagne de négativité. Alors on a un peu rigolé à l'intérieur parce qu'on se dit, mais c'est drôlement dur. Hein. On a essayé de faire ça pendant une semaine avec une nonne. On s'est rendu compte à quel point c'était difficile. D'ailleurs, le monde actuel et sa psychologie nous demandent souvent de déverser tous nos... tout notre ombre abominable, etc. Mais ça, c'est dans un contexte particulier. Hein? C'est un moyen habile, en quelque sorte. Mais dans notre vie quotidienne, si vraiment on faisait l'effort de ne dire des autres que des choses positives, ou en tout cas se restreindre, s'empêcher gentiment de créer des perceptions négatives des autres, notre vie s'améliorerait énormément. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Mais ça fait partie de cette loi du karma, cause-effet, cause-effet. Quand on cesse de dire du mal des autres, la vie nous... Il y a quelque chose qui reconnaît cette qualité de bienveillance, le metta, hein, de pouvoir cesser de recréer dans le monde dans lequel on vit des perceptions négatives. Je ne dis pas que ce soit facile, mais c'est une loi, la loi de cause et effet. Quand on plante une bonne semence dans le sol, si on s'occupe bien d'elle, il y a des fortes chances pour que cette semence devienne une plante saine. Quand on crée dans son esprit, on plante des semences négatives, que voulez-vous que le futur soit autre que misérable? Il ne peut pas être autrement, ne cherchez pas midi à 14h, il ne peut pas être autrement. Donc si vous voulez que le futur soit vraiment un monde où vous vous sentiez bien, où les autres autour de vous se sentent bien, il faut comprendre cela. Après, si vous avez vraiment de déverser votre haine ou quoi que ce soit, ou votre négativité, vous avez toujours le psychothérapeute, le pauvre ou la pauvre, pour recevoir toute votre... tout ce qui ne va pas dans la vie. Mais en dehors de ça, nous-mêmes, dans notre travail quotidien, de commencer à voir intelligemment la relation cause-effet. Cause et effet. Nous sommes partis de ce champ d'énergie. Le Bouddha nous dit, très clairement, dans les premiers versets du Dhammapada, l'esprit est avant-coureur de toutes choses. Les choses viennent de l'esprit, elles sont faites par l'esprit, le mental, l'esprit, nos pensées en quelque sorte. Si nous agissons et si nous parlons avec un esprit bienveillant, habile, ce qu'on appelle skillful, sage, habile, bienveillant, vous pouvez mettre les mots que vous voulez, skillful. Pardon, unskillful, le premier vers c'est unskillful. Hein. La souffrance nous suit, telle la roue du chariot suivant le pied d'un bœuf. C'est une image dans le Dhammapada, les recueils du Bouddha, qui sont très beaux. L'esprit est avant-coureur de toutes choses. Elles sont faites par l'esprit. Hein? Et elles viennent de l'esprit. Si nous agissons avec un esprit habile, je dirais même bienveillant et sage, le bonheur nous suit, telle notre ombre qui ne nous quitte jamais. Alors je ne tiens pas à rendre quiconque dans cette pièce coupable de quoi que ce soit, parce qu'on est tous dans le même sac, hein, n'oubliez pas. On continue, moi aussi je continue à travailler sur moi-même. On est tous à utiliser cet enseignement du Bouddha. Ce n'est pas une question de se rendre coupable. La culpabilité dans le bouddhisme, c'est une chose dont on ne parle pas. Par contre, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus pragmatique. Le bouddhisme vous dit, si notre qualité d'éthique, c'est-à-dire si nous parlons d'une manière négative, critique, méchante des autres, si nous créons quelques perceptions constamment négatives, critiques, malsaines, etc., le résultat, on le connaît. Le résultat, vous le connaissez vous-même. On se retrouve dans une situation intérieure extrêmement douloureuse. Vous reconnaissez cela dans la pratique de méditation quand vous venez en retraite. Et la situation, disons, quotidienne n'est pas toujours propice à voir les détails de notre esprit. Donc, on ne parle pas de suivre l'éthique pour nous rendre coupables, mais on se rend compte que lorsque notre mental est pris dans des activités négatives, qui incluent évidemment le résultat, ce sont des pensées négatives, des paroles négatives, des actes négatifs, au travers de la méditation, le résultat, c'est que notre esprit est souvent, si on a une conscience évidemment, notre esprit est rempli de regrets ou de remords. On ne parle jamais de culpabilité dans le bouddhisme, parce que justement cette culpabilité, c'est le sentiment de « je suis terrible, j'ai fait mal, je suis une personne abominable, etc. » Non, on reconnaît que lorsqu'on agit, que ce soit par la pensée, l'action ou la parole, si vous êtes vraiment conscient de ce qui se passe en vous-même, vous verrez qu'il y a toujours un sentiment de regret quand ce n'est pas aligné en harmonie, ce que j'appelle avec le dharma, avec ce qui est bénéfique. Tout ce qui est bénéfique dans votre pratique est en harmonie avec le dharma. Cela vous aide et vous soutient dans le dharma. Lorsque nous sommes généreux, lorsque nous sommes compassionnés, lorsque nous sommes déterminés, lorsque nous sommes capables de faire un effort vraiment pour arriver au résultat que l'on veut dans notre pratique, lorsque nous développons l'effort juste, la sagesse, l'équanimité, toutes ces qualités soutiennent notre pratique du dharma. Et elles sont très importantes à développer, parce que dans la vie, quelquefois, on se sent un peu perdu, on ne sait pas trop vers où se tourner. On a le sentiment qu'on est pris dans la confusion, dans la misère, dans la souffrance et tout ça. N'hésitez pas à faire une bonne chose, à faire une action qui va vous rendre plus heureuse à ce moment-là. Il faut quand même pas seulement attendre et être attentif à la respiration. Il y a aussi quelquefois, et la sagesse vous dit, faites quelque chose de bienveillant. Faites quelque chose qui va vous amener un sentiment d'avoir planté une semence saine et reçue immédiatement, parce qu'immédiatement on se sent mieux déjà. Donc la pratique n'est pas seulement, comme vous le savez, s'asseoir sur un coussin et attendre que la respiration se fasse naturellement et dans l'observation. C'est aussi cette capacité de comprendre que notre esprit est un amalgame de mémoire, de passé, d'actions passées, qui font qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. On n'a pas ni à juger, ni à critiquer, ni quoi que ce soit. Moi, en tant qu'enseignant dans cette voie bouddhiste, je vous encourage constamment, again and again, comme on dit en anglais, constamment, à repartir à zéro. Vous savez, les ordinateurs, quand on les met, on fait le reset, il y en a qui sont dans l'électronique. Reset, je ne sais pas comment on dit ça en français. Reset.
Redémarrage.
Pardon ?
Redémarrage.
D'accord, redémarrage. C'est plus rapide que ça. Redémarrage, ça peut être ça. Le reset, si vous avez ces gadgets.
Redémarrer, c'est vraiment remettre toutes les données à zéro.
C'est ces gadgets électroniques, on peut les mettre le reset. Et tout à coup, on se retrouve là, comme il était quand il est sorti de l'usine, en quelque sorte. Eh bien, on peut faire le reset avec notre esprit constamment. Et en fait, l'instant présent, c'est repartir à zéro, quoi. On fait table rase et on continue. Et ça, ça demande beaucoup de... beaucoup de force et beaucoup de confiance. Il faut faire confiance. Je le sais par ma propre expérience, hein, parce que l'esprit vous continuera à vous tirer vers le passé, vous dire non, mais je ne peux pas faire ça parce que j'ai été méchante, blablabla. Non, je ne peux pas être vraiment heureuse parce que blablabla. Non, vous trouverez toujours dans vous-même, à un moment dans un petit coin de votre esprit, quelque chose pour vous rendre coupable d'avoir fait une chose qui n'était pas bonne. Et moi, je trouvais ça extraordinaire que dans le bouddhisme, on ne parle pas de culpabilité, on parle de regret et de remords. C'est différent. Hein? Le regret et le remords, ce sont des sentiments que l'on ressent lorsqu'on a fait une chose qui n'était peut-être pas bonne, mais on n'a pas à se rendre coupable, on n'a pas à se maltraiter. Je suis un... comment on appelle ça? Sénat, comment on dit ça? Pécheur, je suis terrible, je suis un pécheur, etc. On n'a pas cette notion de « je suis un pécheur » dans le bouddhisme. Par contre, la réalité, c'est qu'on regrette et on a des remords, peut-être. On va même demander pardon à quelqu'un, on peut même demander pardon si c'est nécessaire, mais après, on recommence frais, neuf. Il n'y a pas « je suis coupable, blablabla, c'est terrible, je ne devrais pas avoir fait ça, je » qui crée des monstruosités, des montagnes de négativité. Donc, on peut simplement dire « on regrette et on a des remords ». C'était pas aussi bien ce qu'on aurait voulu faire. Ce n'est pas, je suis pas la personne que je croyais être. Je dis toujours alléluia. Je suis pas la personne que je croyais être. Et on regrette, mais on n'a pas à en faire un énorme plat. On regrette et on recommence avec des bases solides. Je ferai attention, je ferai plus attention la prochaine fois. Je serai plus vigilante, je serai plus attentive. On se donne une chance. Ça, le drame, c'est que la culpabilité, quelquefois, ne nous donne pas une deuxième chance si facilement. Alors que le regret, le remords, bon ben, ça fait partie de ces états transitoires qui nous permettent justement de... repartir à zéro, sur une base nouvelle. Et la méditation, c'est votre outil. L'outil de la méditation, c'est de revenir à l'instant présent, qui est toujours un instant neuf, un instant pas encore coloré par le passé, l'instant neuf, constamment. Et où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous pouvez vous rappeler que vous avez un refuge qui vous permet de faire un reset, un redémarrage dans l'instant. Mais ce qui n'est pas tout à fait le redémarrage, c'est beaucoup plus rapide. Le reset, c'est on pousse sur un bouton et hop, on revient à zéro. Oui, il est vrai que pour arriver vraiment à être dans le présent, c'est pas toujours si facile. Alors quand vous rentrez chez vous, vous allez peut-être rencontrer une situation que les gens rencontrent facilement. Vous n'avez pas le sentiment peut-être d'être attaché en cet instant à la paix que vous avez reçue pendant ce week-end. Vous n'avez pas le sentiment d'être très attaché ou identifié. Alors la vie nous donne toujours de bonnes leçons. On arrive chez soi, plein de tranquillité, plein de clarté, etc. On a travaillé la bienveillance pendant deux jours sur soi-même, on a été patient et doux avec soi-même. Et vous ouvrez la porte et tout à coup, vous pouvez trouver quelqu'un en train de vous accuser de toutes sortes de choses Vous avez laissé la vaisselle, ils ont été obligés de nettoyer pour vous. Le chien a fait pipi dans le jardin du voisin et ils se sont querellés avec les gens qui restaient chez vous. Le téléphone sonne, on vous demande de venir immédiatement à un endroit et les gens vous accusent de toutes sortes de choses. Vous avez la lettre des impôts qui a doublé dans la semaine qui est venue. Vous allez retrouver en quelque sorte les délices du monde conditionné en dehors des centres de retraite. Et la chose qui est très drôle, c'est qu'on ne sent pas qu'on est attaché à cette paix tant qu'il n'y a pas vraiment l'épreuve qui nous fait comprendre que la vie n'est pas un lit de roses, comme on dit en anglais. Elle est telle qu'elle est. Moi, je pratiquais le métta dans la forêt à Chitters. Quand j'étais novice, j'avais une nonne en particulier qui m'irritait énormément. Mais plus qu'irritée, elle m'enrageait en quelque sorte. Elle avait des très bons côtés aussi, donc c'était pas permanent. C'était un aspect d'elle-même qui m'irritait et m'enrageait. Et je me souviens, je partais dans la forêt, j'allais faire le métta pendant 4 heures au bord du lac, développer. J'adore la nature, donc la nature tout de suite me rend paisible. Et donc, j'étais là en train de développer le métta. Et tout à coup, et j'espère qu'il y a quelqu'un d'entre vous ici qui entend, parce que ça correspond exactement à ce que quelqu'un va partager avec moi. Je fais 4 heures de métta là-dessus. Enfin, pas ininterrompu, hein, mais disons, le thème de mon après-midi, c'est le métta. Et je quitte mon arbre. J'étais assis sur un arbre qui était tombé dans le lac, donc j'étais très vigilante, parce que si je n'étais pas à droite, à gauche, je pouvais tomber dans le lac facilement. Et je sors de mon arbre, je retourne dans le cottage des nonnes. La première personne que je vois, vous devinez qui? D'accord? Je vois rouge, bleu, l'arc-en-ciel complet devant moi, et la colère qui revient instantanément. C'est pour vous dire à quel point les choses sont impermanentes. Ça m'a beaucoup amusé. Moi, je ne me suis pas du tout pris au sérieux particulièrement. Ça m'a beaucoup amusé. J'ai compris que l'esprit n'est pas stable. L'esprit n'est pas fiable. Le mental n'est pas fiable. La seule chose qui est fiable, c'est l'humour et une relation légère avec cet esprit. Ça, c'est fiable. Quand vous permettrez à l'esprit d'être exactement ce qu'il est, mais avec légèreté et humour. Quand on se prend trop au sérieux, notre vie devient un enfer. Parce que ce sérieux n'est pas très utile, en fait. Ce sérieux n'est pas une qualité de compassion, n'est pas une qualité de bienveillance, d'acceptation de soi-même. Hein? Donc, quand vous ouvrez la porte, que le téléphone sonne, que le chien fait pipi par terre, que votre partenaire vous traite de tout, que votre maman vous téléphone en disant que vous l'avez oublié, que vous êtes une fille lâche et méchante, rappelez-vous de compter 5 fois, mindfully, comme on dit en anglais, et de prendre la respiration avant de sortir la réaction immédiate, peut-être habituel. Hein. Donnez-vous une chance, simplement en vous arrêtant quelques secondes. Dès qu'une chose est difficile, arrêtez quelques secondes. Et vous savez, le monde, on dit, oui, mais je ne peux pas le faire parce que blablabla. C'est fou ce que le monde est intimidant quand même. Hein. Vous savez, on a des amis qui travaillaient dans les corporations, dans des affaires, etc. Et ce couple est bouddhiste et ne buvait absolument pas du tout d'alcool. Eh bien, au bout de quelques années, on disait, mais je ne peux pas faire ça dans mon usine, dans mon entreprise, c'est impossible, je ne peux absolument pas faire ça. Les gens vont me rire au nez, pourquoi je n'aurais pas du champagne à Noël, pourquoi je n'aurais pas ci, pourquoi je n'aurais pas cela, etc. Eh bien, au bout de quelques années, ces gens-là lui ont envoyé des boîtes de jus de pomme biologique pour Noël. Peut-être pas biologique, mais en tout cas d'un bon jus de pomme. Vous voyez ? Donc le monde était prêt à soutenir cette personne dans son engagement à ne pas boire de l'alcool. Et on a tellement peur d'être intimidé par les autres. Hein. Ou bien, dans le monastère, vous savez, il y a aussi, tant qu'il y a des êtres humains, il y a ce côté speed. Évidemment, le monastère, c'est un lieu de où on cultive l'attention. Et je me souviens moi-même, quand les nonnes venaient vers moi, elles étaient toujours en train de... Il y avait toujours ce sentiment, peut-être, oh, elle ne va pas me donner la permission. Alors il y a une espèce de peur comme ça, là. On sent la vibration de l'énervement, déjà avant que la réponse vienne, parce qu'il y a déjà la peur qu'on va dire non, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on sent déjà l'énervement. Ensuite, la pression de dire oui ou non immédiatement, en moi. Et j'avais fait une pratique où j'avais dit en moi-même, je ne serai pas intimidée par qui que ce soit, par quelque personne que ce soit. Quoi qu'elle, cette personne me demande, je vais dire, on va s'asseoir quelques minutes et je te donnerai la réponse après ça. Alors évidemment, étant la nonne la plus ancienne, j'avais le pouvoir de faire ça. Mais c'était aussi pour m'aider. C'est peut-être une chose que vous pouvez utiliser comme moyen habile. Au lieu d'être intimidée par les autres, en ayant l'impression que vous devez leur donner une réponse immédiate. Si vous ne leur donnez pas la réponse immédiate, ils vont vous... comme ça. Vous vous arrêtez, et même si les autres sont énervés, ça ne fait rien. Vous arrêtez quelques secondes, et à la limite, vous pouvez même faire un miroir à l'autre, ce qui peut aggraver les choses aussi. Si vous faites un miroir à l'autre, il est pressé, stressé, et il va peut-être voir lui-même combien, lui-même ou elle-même, combien elle est bête d'agir comme ça. Ça va encore aggraver peut-être la situation, mais ça ne fait rien. Il faut faire confiance au dharma quelque part, parce que même si cette personne est encore plus énervée, vous n'avez pas à prendre son énervement. Vous n'avez pas. Il y a des histoires dans le bouddhisme, dans le Bouddha le dit à un laïc. Il lui donne le simile, enfin l'histoire par rapport à... Les gens peuvent être énervés, peuvent être en colère, mais vous n'êtes pas obligé de recevoir leur plat de colère. Vous n'êtes pas obligé de recevoir leur plat d'énervement ou d'irritation. Vous comprenez? De faire la différence entre la personne qui est là et son monde, et la personne qui est ici et le monde ici. Ça, c'est une des plus grandes leçons que j'ai apprises, moi, au cours des années. C'est de pouvoir laisser les gens libres et être ce qu'ils veulent être, c'est leur problème, c'est pas le mien. Et de faire la grande différence entre la liberté de cet être et ma propre liberté. Ma liberté, elle est précieuse, en ce sens que si je décide d'agir d'une certaine manière, elle est précieuse. Hein. Mais la liberté des autres est tout aussi importante et précieuse, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de prendre leur stupidité. Vous n'êtes pas obligé de prendre leur impatience. Vous n'êtes pas obligé de prendre leur négativité. Rappelez-vous de cela, c'est très important. Et il n'y a que l'attention et la vigilance intérieure qui peuvent vous amener à ne pas être intimidé par le monde qui vous entoure. Pas être intimidé. Ralentir. Faire attention. Est-ce que vous avez des questions?
Oui. J'ai mal compris ce que signifie faire le miroir. Vous avez parlé avant, lorsqu'on est face à une personne.
Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas, en fait. Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas, parce que c'est la catastrophe si on veut faire miroir à quelqu'un. Il n'y a que peut-être un maître avancé ou quelqu'un dont le karma est relativement géré, bien géré, avant de vouloir faire le miroir à quelqu'un. Par contre, dès que vous êtes attentif, vous êtes déjà dans le miroir, vous comprenez? Parce qu'il faut faire attention que pourquoi on veut faire un miroir à quelqu'un, hein? Est-ce qu'on a envie de lui dire « je sais une chose que tu ne connais pas de toi-même et je vais te montrer » cela. Si on est dans une position où on enseigne, où on vous demande d'apprendre quelque chose, hein, on est dans une position forte quelque part, vous pouvez le faire, mais faites attention, parce que vous savez, l'ego est une entité cruelle quelquefois, hein. Il faut faire toujours attention. Donc faire miroir. Plus moi je suis apaisé en moi-même, dans mon expérience, plus je suis cool, apaisé, et je suis vraiment centré en moi-même. Mais pas centré, déconnecté, attention. Parce que moi, il y a aussi un passage dans l'attention, on est centré, déconnecté. Hein. On n'est pas vraiment centré, c'est une étape dans la pratique. Hein. Je ne sais pas si on peut éviter, mais c'est une étape dans la pratique où on est identifié à la personne qui est centrée et connectée, et cette identification fait qu'en fait ça nous sépare déjà. Hein. C'est une chose que peut-être, enfin moi je n'ai pas pu l'éviter en tout cas. Je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le monde. Mais si on est vraiment attentif, même sans attendre d'être vraiment bien relié, bien stable, etc., dès qu'on n'est pas réactif dans une situation, on crée un miroir quelque part. Parce que la personne qui est agitée, irritée, inattentive ou bien réactive, vous lui donnez une autre vision des choses. Le problème avec les êtres humains, c'est que quand on est réactif, on se met à l'autre, commence à réagir à nouveau. Donc c'est une scène de réaction, contre-réaction, etc., qui est une perte de temps complète en ce qui me concerne. Complète. C'est perte de temps, perte d'énergie, perte de ceci. À moins qu'on veuille s'amuser, que dans la réaction, bon, on peut faire une pièce de théâtre là-dessus. Hein. Moi, les films ne sont pas nécessairement une image de la réalité quotidienne des gens. Mais il y a toujours cette espèce de désir de créer des crises dans la vie. Hein, il faut que ça s'agite. Alors, je vous parle dans un contexte bien particulier. De gens qui sont intéressés comme vous par la pratique, de gens qui sont intéressés à libérer leur esprit de choses malsaines. Hein. Vous n'êtes pas n'importe qui, en ce sens-là. Vous êtes une minorité de gens qui sont intéressés par cette voie. Et l'effet miroir, c'est quand quelqu'un arrête de réagir, quand vous êtes en réaction, par exemple. C'est l'effet miroir. Où on peut se voir mieux. Moi, par exemple, quand j'étais en Thaïlande, j'avais un maître thaïlandais dans un monastère de la forêt. Et la première fois que je l'ai vu, il m'a demandé comment ça va la pratique, il m'a demandé la pratique, etc. Et je suis parti sur, je suis comme ceci, je suis comme cela, j'ai ces problèmes-là, j'ai parlé pendant une demi-heure sur ma pratique, etc. Et c'était intéressant parce qu'il m'a écouté pendant un bon bout de temps, comme ça. Il n'a rien eu à dire, mais moi tout de suite, ça m'a mis du temps un peu quand même, j'ai tout à coup, ça a été comme du vent, c'est comme si je disais du vent, c'était vraiment de l'air. Je parlais de, c'était de l'air. Du vent. Tout à coup, c'est comme une grosse bulle de vent qui est partie. Quoi. Grosse bulle d'air. Bon, c'est pas tout le monde qui vous fait cet effet-là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Encore des questions?
Par rapport à ça, finalement, la personne qui est en face, elle peut aussi se sentir dans un esprit d'infériorité. C'est aussi difficile d'avoir cette attitude et puis que l'autre se sente parce qu'il n'y a pas d'esprit, moi je sais, toi tu sais pas, mais c'est pas évident non plus à gérer.
Non, c'est pas évident, c'est vrai. C'est pour ça que la vie est difficile. C'est pas évident. Mais on fait le mieux qu'on peut. La qualité essentielle dans la vie, c'est la gentillesse, la bienveillance. Toujours. Si vous ne savez pas quoi faire, être gentil et bienveillant. Vous êtes confus, gentil et bienveillant. Vous entendez doute, la gentillesse et la bienveillance, toujours. Vous n'aurez pas de mauvais effets par rapport à ça. Toujours. Alors après, comment vous la manifestez? C'est à vous de voir avec votre propre intelligence intérieure, votre propre... Il faut aussi faire attention, parce que là, il ne faut pas seulement faire plaisir aux autres, c'est pas ça. La sagesse et la bienveillance, c'est aussi pour vous-même. C'est une qualité, quand elle est dans votre cœur, elle vous fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai fait j'ai fait le métta, même en train de passer la serpillière, je me souviens, au monastère, hein, en récitant un petit, en faisant ma pratique de métta et ma serpillière, que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres soient en paix, que tous les êtres soient libérés de toute souffrance, que tous les êtres, je faisais ça très 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 assidûment le matin après la méditation du matin. Eh bien, j'ai trouvé le moyen d'irriter quelqu'un qui m'a grondé comme pas deux en disant que je la coinçais dans son coin, elle était en train de faire les fleurs. Et je la coinçais dans son coin, elle se sentait presque abusée. Vous voyez? Donc, dans le métta, on n'a pas toujours la sagesse. Si j'avais été vraiment sage, j'aurais pu voir qu'il y avait cette personne, j'aurais été sensible à la personne qui était là, en train de faire un travail, et de me dire, bon, ben, je pourrais lui demander peut-être. Hein, de... Alors, quelquefois aussi, on est gentil, mais on n'est pas très habile, en ce sens que on n'est pas très confiant, en fait. On n'a pas beaucoup de confiance en nous-mêmes. C'est-à-dire que j'aurais pu, dans cette situation-là, si je la revois pour m'apprendre d'une chose que j'aurais pu voir plus clairement, c'est que, ayant vu cette personne, maintenant, ce que je pourrais dire facilement, est-ce que ça t'ennuie de te déplacer un petit peu pour que je puisse terminer de nettoyer le sol de cette pièce ? Elle va peut-être me dire oui ou non. Bon, ça, c'est... Après ça, je ne sais pas. Mais là, je me souviens très bien, je n'osais pas demander et je m'avançais très délicatement, ce qui irritait encore plus l'autre personne, très délicatement, un peu nerveusement, comme ça, là, avec ma serpillière. Et là, je pense que ça l'a irrité encore plus, que j'avais fait des grands trucs et j'avais bousculé carrément, quoi. Au moins, c'était clair. J'avais fait vraiment quelque chose de mauvais, quoi. Mais là, j'étais discrète, j'essayais de faire ça tout autour, sans la déplacer, vous voyez. Donc, c'est pas toujours évident, les résultats de notre méta. Si j'avais vraiment été dans le méta, dans l'instant présent, j'aurais pu vraiment voir que la personne qui était là était en train de travailler, elle avait besoin, peut-être besoin d'espace, hein. Elle était occupée à ses fleurs, donc c'était peut-être pas le moment de passer la serpillière sous ses pieds alors qu'elle était en train de préparer un bouquet de fleurs, etc. Hein? Donc le méta, c'est aussi voir clairement une situation. Être sensible à la situation dans laquelle on est, en voyant les gens autour de nous, en comprenant que bon, il vaut mieux pas parler à elle aujourd'hui, elle a pas l'air de... Il vaut mieux rester un petit peu en retrait, à mon avis. Hein? D'avoir cette sensibilité fine quelque part, hein, une sensibilité fine par rapport, mais en soi-même, toujours la bienveillance, la gentillesse. Parce que ça ne fait pas du bien nécessairement aux autres, mais ça vous fait du bien à vous-même. Et ça, c'est pas toujours facile à comprendre quand on est un caractère colérique. Hmm? Ou à feu, qu'il y a du feu dedans, qu'il y a... Ça pète un peu de feu comme ça, là. On aime bien ce côté un peu fiery, comme on dit en anglais, là. Ça fait un peu grand-mère d'être un peu gentil, tout doux, tout patient, comme ça. Mais en fait, je ne sais pas si vous connaissez Mahasi Sayadaw. Mahasi Sayadaw, non ? C'était un grand maître birman qui est décédé maintenant. Quand j'ai fait une retraite avec lui il y a une trentaine d'années en Angleterre, ça m'a toujours amusé. Il me disait, quand on fait la méditation, marchez comme si vous étiez une vieille personne. Cela veut dire, vous avez remarqué, les gens âgés marchent lentement, hein? Ils ne sont peut-être pas nécessairement attentifs, mais ils marchent lentement. Il disait, faites les choses lentement. Et dans la tradition Maharishi Sayadaw, tout est lent. C'est vrai. Il essayait de nous faire comprendre que de comment nous appliquer cette lenteur avec des occidentaux qui sont constamment pressés. Alors c'est la petite cuillère, je lève, je soulève. On médite pendant 10 jours comme ça, je soulève. Tous les repas sont pris avec la bouche. Je tire, descends. On fait la méditation en marche comme ça, ça peut vous rendre fou complètement. Hein. On se lève le pied, hop, on lève. Mais une fois qu'on est dedans, on ne peut plus marcher autrement en fait. Je vous ai dit, l'esprit est très fluide et très adaptable. Une fois qu'on a marché lentement et qu'on a mangé lentement pendant 10 jours, on se demande pourquoi j'ai pas fait ça toute ma vie. C'est pour vous faire comprendre à quel point on est beaucoup plus fluide, adaptable et apte au changement qu'on s'imagine. Ça va, c'est assez pour le miroir. Bon, j'en sais plus si on est dans le miroir ou autre chose. Hein. La réponse a été tellement longue que...